En 2003, Nicolas Cage ira jouer un arnaqueur qui dit beaucoup beaucoup d'insultes. Bienvenue dans Citizen Cage.
Cop car.
I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence.
Put the bunny back in the box.
I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis Alexis Duclos et comme toujours, je suis accompagné par Julien Asuncao. Salut Julien.
Salut Alexis. Bon, tu m'as déjà appris quelque chose sur le film dans l'intro.
Exactement. C'est comme ça qu'on est informatif dans notre podcast aujourd'hui.
C'était clair, concis.
Ouais, exactement. Nickel. Et aujourd'hui, on va parler de...
Des associés, les associés, ouais, que je découvre était le nom français d'ailleurs, de Mashtik ouais. Men. Il me semble que dans la fin de l'épisode précédent, on a dû dire Mashtik Men. Je suis pas sûr qu'on a dit les associés. Enfin, je sais pas, ça me. Quand j'ai lu, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, ça doit être le nom québécois, tu sais, comme d'habitude. Mais non, apparemment, il est vraiment sorti sous ce nom-là en France.
Donc, ça me dit rien non plus.
Ouais, bon, écoute. Donc, film américain de 2003, réalisé par l'immense Ridley Scott.
Voilà.
Pas n'importe qui, hein.
Pas n'importe qui.
Avec Alison Lohman, Sam Rockwell et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Alison Lohman qu'on connaît pas trop, mais c'était notamment l'actrice principale dans Jusqu'en Enfer là, de Sam Raimi.
Ouais, Drag Me to Hell.
Je pense pas l'avoir vu dans autre chose. Bon, par contre, Sam Rockwell, on l'a vu un peu plus.
Ouais, Sam Rockwell, oui. Sam Rockwell, on le connaît bien.
Mm.
Et non, il est jamais passé dans Citizen Cage encore. Hein.
On l'a pas encore vu. Mais je crois que c'est le seul film qu'il fait avec Nicolas Cage d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'ils se soient recroisés.
Bonne question.
À part si Nicolas Cage est dans Iron Man 2 et qu'on le sait pas.
C'est lui qui fait le fouet.
Il était derrière une. Il était dans une armure. C'est comme.
J'aurais pas été étonné.
Ouais. Au niveau du synopsis, écoute, je vais tenter quelque chose, vu que, je le dis tout de suite, moi, c'est pas un film que j'ai vu.
Ok.
Donc, tu vas me dire si je dis des conneries.
Je suis même pas capable de te dire si tu vas dire des conneries, parce que je l'ai vu, mais je l'ai vu il y a, mon dieu.
Ouais, t'as même réalisé que les insultes, en fait.
Je pense que je l'ai probablement vu quand il est sorti, donc, tu sais.
Ouais. D'accord. Donc, a priori, on parle de l'histoire de Roy Waller, qui est un escroc qui a l'air assez doué, mais qui a le problème de souffrir de nombreux troubles mentaux. Je vous fais pas la liste parce qu'elle est a priori assez longue. Et puis, alors qu'il décide, avec une certaine réticence, de consulter un psychiatre pour réussir justement à se soigner, il découvre à ce moment-là qu'il a une fille d'une de ses ex-compagnes. Et puis, il décide de la rencontrer. Et cette fille, qui est âgée de 14 ans, ne va avoir plus qu'une seule envie, c'est-à-dire de devenir son élève.
Voilà. Ouais.
Et la fille n'est pas jouée par Sam Rockwell, a priori.
Non, ça aurait été si bien. C'est un peu dommage. La seule chose que je vais juste rajouter à ton truc, c'est parce que ça, c'est une des choses que je me souviens, c'est qu'un de ces trucs ses problèmes mentaux, parce que c'est super drôle, c'est le syndrome de la Tourette.
Oui, bah oui, du coup.
C'est pour ça que
j'ai pas vu. Et pourtant, ouais, je l'ai pas vu, ça, écrit. J'ai vu qu'il avait peur, je crois, il était agoraphobe, des choses comme ça. Enfin, bon.
Alors, c'est vrai que dans mon intro, je dis je parle d'insultes, mais la Tourette, c'est pas forcément des insultes. Hein. Ça peut juste être tu blurbes des mots à part. C'est pour ça, il me semble que c'est des insultes, mais ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Donc, si c'est pas le cas, désolé pour cette intro. Hein.
Ouais, bon, c'est pas la première connerie qu'on dirait.
C'est certainement pas la dernière.
Oui, voilà. Non, mais c'est aussi l'idée du. C'est un peu le concept aussi, c'est de donner nos souvenirs d'un film si on l'a vu et puis de le confronter avec. Avec la réalité.
La réalité.
Alors du coup, est-ce que ça t'avait laissé quand même plutôt un bon souvenir dans ton esprit ou...
quand même, ouais. Enfin, je veux dire, bon, ok, bon, tu sais, Ridley Scott, il a eu des misses, mais c'est rare que j'ai vu un film de Ridley Scott qui m'a pas, genre, au moins donné une bonne, un bon feeling, tu vois. Enfin, je veux dire, même pour moi, par exemple, c'est un des plus mauvais, je vais mettre ça entre guillemets, enfin, un des films que j'ai le moins apprécié de Ridley Scott, c'est son.
Alien Covenant.
Hein?
Alien Covenant? Non, je sais pas, je tente des trucs.
Non, cette espèce de film épique là, des Templiers ou je sais pas quoi là.
Ah oui.
Avec Orlando Bloom, je crois.
Oui.
Merde.
Je vois lequel c'est, mais je sais pas comment
c'est. Bref, j'ai oublié ce nom, bah, tu vois à quel point il m'a marqué, mais tu vois, voilà, c'est un film très lent, c'est un film machin, mais même là, t'es déçu, parce que ça reste genre de la belle ouvrage, quoi.
C'est pas celui-là où il y a Cillian Murphy.
Je sais plus. Peut-être. Ouais. Mais c'est ça que je veux dire.
C'est vraiment très approximatif, ça.
Mais tu vois, enfin, je veux dire, Ridley Scott, c'est rare qu'il fasse de quoi qui m'horripile, quoi. Donc
oui, ouais. Il y a un paquet de ces films qui sont mauvais, mais, enfin, quand ils sont mauvais, je veux dire, c'est aussi souvent pas de sa faute, quoi. Enfin, ça peut être le scénario, des choses comme ça.
Ça peut être le studio aussi, enfin. Bon, c'est, voilà, après, c'est sûr que, tu sais.
Sur la réalisation pure, en tout cas, bon, voilà, c'est pas n'importe qui.
Prometheus, c'était pas non plus génial, quoi. Mais voilà,
le scénario, pas la réelle.
Non, ça reste un beau film. Bon, je trouvais que Prometheus, il était un peu en deçà de ce qu'il est capable de faire, mais ça reste. C'est ça le truc, c'est qu'il y a certaines personnes, leur deçà, ça reste trois fois meilleur que la plupart des gens.
Le problème, c'est
que
quand t'as fait Alien et Blade Runner.
Oui, bah voilà.
Tu peux pas, en fait, tu peux pas faire aussi bien après.
C'est il y a ça aussi, donc.
Quand tu commences par ça, dans ta carrière, enfin, quand dans tes premiers films, t'as ça.
Quand ton premier film, c'est Alien, ouais, tu fais gaffe.
Je sais pas
quoi.
Si c'est pas Thelma et Louise son premier film, mais c'est déjà pas mal aussi.
Bah, Thelma et Louise aussi, quoi.
Oui, voilà, quoi. Non, ouais.
Le gars, c'est pas une merde, quoi. Donc, bon. Mais non, en plus, j'ai quand même un bon feeling de ce film-là. Tu vois, par exemple, une de mes amies qui adore notre podcast et qui l'écoute, elle arrête pas de me dire j'ai hâte que vous parliez de Mystic Man, parce que c'est un de ses films préférés, en fait. Donc, j'ai quand même une bonne. Un bon feeling pour ce film-là. Puis, de ce que je me rappelle, mais en plus de ce que les gens me disent de ce film-là, donc j'ai vraiment vraiment hâte de le revoir. Puis en plus, bah t'sais, voilà quoi, Nick Cage qui joue un escroc avec des problèmes mentaux, puis Rockwell qui joue le poteau,
ouais, bon, qui joue son associé,
voilà, tu sais, on, enfin, faut avouer quoi, ça fait envie quoi, ça fait vraiment envie. Mais et en vrai, je suis plutôt content de l'avoir vu il y a peut-être 13 ou 14 ans, quoi, parce que moi, je vais pouvoir le revoir avec un œil un peu plus frais.
Oui.
Puis en vrai, tu sais, genre, ça me fait plaisir. Puis, si je dis pas de conneries, c'est aussi un film avec une soundtrack de Monsieur Zimmer.
Ah, peut-être.
Et ça, moi, ça me fait toujours plaisir, quoi. Puis il me semblait que justement, elle m'avait plutôt bien tapé dedans. Donc, voilà, quoi. Un truc, je pense okay. Qu'on va se faire plaisir.
Ouais, de mon côté, je suis vendu à Ridley Scott. Non, mais voilà. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que sur l'affiche, ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a que trois persos dans le film. Donc, et du coup, un film qui n'a pas essayé d'être grandiloquent, quoi, qui va être avec un niveau assez. Qui va pas partir dans des millions de personnages, dans des intrigues hyper complexes et tout. Donc, généralement, j'aime bien ce genre de film. Et c'est des films qui ont moins tendance justement à se rater. Souvent, les gros plantages, c'est quand les mecs, ils ont pété plus haut que leur cul et que, voilà, ils ont voulu trop en mettre. Donc, ça, plus le fait que, voilà, qu'il y ait Ridley Scott, que Sam Rockwell, c'est qu'un acteur que j'apprécie, bah, du coup, voilà, ça me donne envie. Le pitch me plaît bien. Donc, écoute.
Bah ouais, c'est cool. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de grand chose à rajouter là-dessus. On va plutôt aller regarder le film, puis on revient juste après.
Allez, go.
Hi, I need a refill of this. I don't have a prescription.
Sir, please wait your turn.
I know, but this is an emergency.
Hey, buddy, ever heard of a lion?
Hey, have you ever been dragged to the sidewalk and beaten until you pissed blood? Listen, I'm sorry, I really need it. Thank you, yes, thank you.
De retour après avoir vu Les Associés de Ridley Scott. que j'avais oublié que c'était Ridley Scott et que quand j'ai vu son nom dans le générique de début, c'est genre hein, c'est Ridley Scott.
Quand t'as pu oublier, t'as pas écouté l'intro. On le dit dans l'intro. C'était il y a une seconde quand même. Ouais, le mec mémoire de poisson rouge. C'est
bah pardon.
Non, moi j'avais pas oublié. Et du coup, c'est ce qui m'avait un peu hypé là. Donc, ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir ça.
Ah, c'était. Ouais, je pense qu'on va pas aller sans, on va pas tourner autour du pot. C'est un très bon film.
C'est un bon film.
Oh. Seul problème que j'ai avec ce film, l'édition, l'éditage. Je sais même plus comment tu dis en français. C'est quoi ? Le montage, merci.
Oui, le montage.
Parce que le mec qui a fait le montage, il s'est fait plaisir sur les.
Oui. Il y en a qui sont bizarres où tu te dis.
Les transitions, merci.
Bah, t'as utilisé Windows Movie Maker
ou
ouais,
non, c'est
ça,
c'est dégueulasse.
Il a des fondus un peu, tu sais, genre, il fait des fondus avec des carrés noirs, des machins.
Des images qui passent l'une devant l'autre en mode.
Un peu grossier, quoi. Ouais. Mais bon. Non, bah après, moi, mon seul défaut, c'est. Enfin, pas mon seul défaut, mais un des trucs qui m'a un peu limité dans le truc, c'est que, bon, la fin est un peu évidente.
Ouais.
Je pensais qu'ils avaient justement évité ce petit problème que je retrouve dans certains autres films du genre, et bon, finalement non. Mais bon, là les gens comprennent pas trop de quoi on parle.
Ouais.
Donc je te propose qu'on attaque le résumé, et bon, pour prévenir, parce que c'est vrai qu'on le fait pas forcément à chaque fois, et là bah notamment pour ce genre de film un peu à suspense, on va dire, ça a une importance, c'est qu'on va spoiler, hein, donc sur le début du film, pas de souci, mais quand on s'approchera de la fin, si par exemple ça vous a donné envie d'aller le voir, bah hésitez pas à mettre sur pause, à regarder le film et à revenir après pour pas vous faire spoiler la fin ou vous passer un petit peu les une minute qu'on s'approche de la fin. On vous préviendra peut-être.
On essaiera, ouais, ce serait bien qu'on essaye de vous prévenir, puis même si on peut ensuite plus tard dans l'édit de dire ok, saute à
on mettra la musique du spoiler,
c'est ça.
Tant qu'on spoil, il y a une petite musique en fond,
une musique d'ascenseur
qu'on a de spoiler.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Oui, bah alors vas-y, en découvrant le personnage de Roy Walker, qui est joué par Nicolas Cage. Donc effectivement, on l'avait décrit dans l'intro, donc il avait pas mal de troubles mentaux, ça se répercute notamment des tocs, on le voit, quand il ouvre ou il ferme une porte, il faut qu'il ouvre la porte trois fois. Donc à ça, il aime pas qu'il y ait des portes ou des fenêtres qui restent ouvertes parce que, bah, en fait, il se sent mieux à l'intérieur qu'en extérieur. Donc on avait parlé d'agoraphobie, mais en fait, je sais pas si c'est exactement le bon terme. Enfin, en tout cas, lui, c'est qu'il aime pas être en extérieur. Il y a pas forcément cette notion de. Alors forcément, c'est lié. Il y a pas forcément cette notion d'être avec des gens parce que quand il est en intérieur avec des gens, j'ai l'impression que ça le gêne pas forcément. Quand il est au bowling ou des choses comme ça, mais par contre c'est les espaces ouverts qui ont l'air de le déranger.
Bah c'est aussi beaucoup, on va l'apprendre en continuant, c'est très psychosomatique aussi, donc je pense que c'est plus une question de, avec le temps il est entouré de gens mais ça va. Je pense qu'il aime pas non plus les gens non plus de toute façon, là ça a l'air d'être le genre de personne qui aime rester tranquille.
Ouais, après je sais pas, on va dire, vu qu'il est, donc on avait parlé aussi un peu dans l'intro, mais donc c'est quelqu'un qui va arnaquer d'autres personnes.
Voilà.
Il est quand même souvent en contact avec d'autres gens et il est à l'aise en fait, il est plutôt à l'aise quand il, justement, après enfin il a un côté vendeur, enfin acteur, il joue bien le truc, donc ça va un peu plus loin que juste pas être bien quand il est avec d'autres gens, mais bon.
C'est vrai qu'il faut quand même être un minimum petit peu sociable pour ce genre de, de truc.
Voilà, et donc il a un peu des tocs au niveau du visage. Bon, pas d'insultes. On se posait la question dans l'intro.
Ouais, non. Bah, c'est ça, c'est parce qu'ils expliquent.
Pas ce pendant-là de Tourette, mais il a quand même.
Il y a des tics, des tics de bras.
Voilà, c'est ça. Et puis, Et puis, puis voilà, de la propreté aussi.
Ouais, donc, que compulsif à mort, il a besoin que ce soit clean, 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 clean. Puis c'est ça, en fait, le film commence sur ce mec-là qui commence sa journée, tout ça, puis qui va au bureau, quoi. Et il arrive au bureau, et là, on a le droit à l'homme que je suis à chaque fois heureux de voir dans n'importe quel film que j'ai vu de ma vie. Je re-regarderai Iron Man 2 juste pour ce mec-là, Sam Rockwell. Bonjour Sam Rockwell, on applaudit Sam Rockwell. Bravo Sam Rockwell, juste là, juste présent. Qui est en train
Après, qui a un peu tendance à jouer un peu toujours les mêmes rôles, je trouve.
Mais il le fait bien.
Pas 100% du temps, mais je sais pas à quel point c'est lié à lui et à quel point c'est lié aux personnes qui le recrutent en lui disant bah tiens tu vas nous faire du Sam Rockwell.
Mais il est très casté, mais bon. Il est très time casté.
Ouais, et puis il a un physique de même je sais pas quel âge il a, mais il continue à avoir un peu un physique de pas d'ado mais de jeune adulte quoi. Je pense qu'il fait plus jeune que ce qu'il est réellement et du coup il est toujours un peu dans des rôles de personnages immatures, c'est peut-être un peu forcé le trait, mais des mecs un peu plus loufoques quoi.
Ouais. Bah ouais, et puis t'as raison, dans celui-là, il est c'est Pix Sam Rockwell loufoque qui joue donc Frank Mercer, qui est en fait son associé, d'où le titre du film en français. C'est bien fait, hein. Son associé qui est en train de.
Pour le titre anglais.
Matchstick Men. Ouais, parce qu'ils ont toujours des matchs. Ah non, j'en sais rien. C'est probablement un terme pour dire des codes artistes. Et justement, Frank est en train de... Pour l'instant, il parle avec une femme au téléphone en essayant, bien sûr, de lui soutirer de l'argent de manière illégale.
C'est ça. Donc, on les découvre dans le feu de l'action. Donc, il est au téléphone en train d'essayer de refourguer une, c'est quoi, un truc de climatisation, je crois. Ah non, c'est pas ça. C'est un truc de water filter. Donc, de filtre à eau.
Filtre à eau qui vaut que dalle, qui vaut $50. Puis, il essaye de le vendre pour 300.
En disant qu'elle a obtenu un cadeau. Donc, après, t'as Nicolas Cage qui participe aussi en se faisant passer pour le patron de son pote là, donc il prend le téléphone et il lui dit voilà, je suis désolé mais vous n'allez pas pouvoir demander à votre mari parce que on doit partir dans pas longtemps, alors c'est tout de suite ou c'est maintenant ou jamais quoi. Donc il conclut là-dessus et bon, ça donne une bonne idée de ce qui est un peu leur quotidien. Bon là c'est le côté pas très reluisant parce que bon, clairement il s'est arnaqué des vieilles personnes qui sont pas qui connaissent pas forcément tous les pièges qu'ils peuvent avoir, donc pas un métier entre guillemets très glamour.
Non,
mais,
pas du tout.
Mais voilà, bon.
Ça dépend pour qui, I guess, je sais pas. On juge pas. Non, ça n'est pas, c'est pas glamour.
Silence, je crois qu'on peut un peu juger quand même. Mais non, mais après ça va être justement un des thèmes du film, c'est que lui, on sent qu'il apprécie pas plus que ça non plus. En fait, il aime à la rigueur le côté trouver inventivité, trouver des techniques pour arnaquer les gens. Et puis quand il est dans le feu de l'action, l'adrénaline. Mais après, le fait d'arnaquer des gens un peu faibles, ça le passionne pas quoi. Et il a un peu une formule pour se donner bonne conscience, où il dit qu'il vole pas de l'argent aux gens, c'est à chaque fois des gens qui lui donnent de manière volontaire, mais en fait volontaire oui, mais sans savoir qu'il y a une arnaque derrière, donc bon.
Et c'est ça, donc il continue un peu cette arnaque avec ces personnes-là, du coup s'il y a une deuxième partie avec cette arnaque qui consiste à aller chez eux, à se faire passer pour des agents du FBI ou des taxes, là, je sais plus comment t'appelles ça.
Oui.
Et pour en fait tout simplement récupérer la signature du mari pour pouvoir accepter le chèque. Et pendant ce moment-là, même s'ils arrivent à faire l'arnaque comme il faut, Roy a une espèce d'attaque de panique qui est d'ailleurs filmée mais d'une main de maître par Ridley Scott. Là, j'ai adoré ces moments. J'adore les moments où il pète un câble, là, où tout semble aller plus vite, où Roy est un peu paumé et soudainement il commence à réavoir ses tics. Et d'ailleurs, Cage les...
Ouais.
il est parfait sur ces tics-là.
Il ouais, il en faut pas trop.
Et finalement, Frank lui dit, bon bah écoute, est-ce que t'as pris tes pilules? Clairement, il a plus de pilules. Quand Roy essaye de contacter son médecin, il se rend compte que le médecin a déménagé. Et là, Frank lui dit, écoute, faut que t'ailles voir un psychiatre.
Ouais, parce qu'il obtenait ses pilules de manière illégale.
Voilà, ouais.
Donc, il peut pas juste aller chez n'importe quel médecin ou à la pharmacie du coin pour en récupérer. Il a pas de prescription.
Et là, donc, il lui dit, va voir un psychologue, un psychiatre, actually, Dr. Harris Klein, joué par Bruce Altman, qui était aussi plutôt cool. C'est ce qu'il fait, au final. Il finit par y aller, mais Klein lui explique qu'en gros, il lui donnera pas de médicaments, à moins que, il commence à parler un peu de lui.
Donc, oui, c'est ça. Et il veut pas que le mec vienne juste pour récupérer sa prescription et se barre. Il se dit, moi, je veux vous soigner. Donc, l'idée, c'est que qu'on comprenne un peu le pourquoi du camp. Parce que, en gros, il comprend tout de suite que c'est pas des médicaments qui vont forcément le soigner, que c'est plus psychologique, que ça peut lui faire du bien de discuter. De ce qui se passe dans sa vie personnelle.
Oui, voilà. Et là, justement, Roy lui explique, c'est quand la dernière fois qu'il avait une relation, c'est sa relation avec son ex-femme qui s'appelait Heather, qui était enceinte pendant le divorce. Et finalement, lui, il l'a jamais vraiment recontacté. Il sait pas s'il a un enfant. Il sait pas. Il sait rien sur cette femme. Si elle est finalement encore en vie ou pas, finalement. En fait, il sait rien du tout. Et le gars, Dr. Klein, lui explique peut-être que tu devrais essayer de la contacter, quoi. Ce à quoi Roy essaye, mais il n'y arrive pas vraiment. Donc, il demande au psychiatre de la contacter pour lui, finalement. Et quand il fait ça, le psychiatre lui explique elle ne veut pas te parler. Elle refuse de te parler, mais par contre, t'as une fille. Et ta fille de 14 ans, elle veut te parler. Elle s'appelle Angela. Et Roy est étonnamment excité et enthousiaste à l'idée de rencontrer Angela et décide de décider d'un meeting pour se rencontrer, en fait.
Mm-hmm. Donc c'est ça, ouais, il accepte de la rencontrer. Donc au début, vu un peu toute sa situation, à la fois de ses troubles mentaux, de sa situation aussi de son métier, c'est un petit peu awkward, on va dire, la première rencontre entre les deux. Elle lui explique que sa mère avait au début lui avait dit qu'il était mort, après qu'en fait il était en prison, après que elle lui a dit évidemment beaucoup de mal sur lui. Donc il y a ça, mais au final même malgré tout ça se passe quand même plutôt bien, et elle a l'air d'avoir envie de continuer à le voir.
Ouais. Ouais, j'aimerais juste revenir sur juste dire un truc qui m'a absolument mind blown quand je l'ai appris. C'est alors Allison est jouée Angela
et je par Allison
Angela
Loman.
Est jouée par Allison Loman,
ouais.
Qui est une femme qui a aussi joué par exemple dans Drag Me to Hell de Sam Raimi récemment, qui est une femme qui a 40 ans et qui avait 22 ans à l'époque de Magic Man.
Alors, j'aurais pas dit 22 ans, mais par contre, quand je l'ai vue tout de suite, je me suis dit, du coup, elle est forcément beaucoup plus vieille que son rôle.
Elle joue quand même super bien. Elle est censée avoir 14 ans, mais elle le joue quand même super bien. Enfin, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte. Personnellement, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte.
J'aurais pas dit 22, mais tu vois, j'aurais dit 18.
Ouais, mais tu vois, c'est rarement problématique d'avoir une personne qui a genre 16, 17 ans pour jouer quelqu'un de 14. C'est comme ça qu'ils font dans les
films. Oui, de toute façon, t'es un peu obligé, parce que c'est lié notamment, par rapport aux heures de tournage et tout. Il y a tout un délire. Mais par contre, souvent, ça se voit quand même.
Mais
je trouve que ça se voit qu'elle est plus vieille, mais peut-être pas, j'aurais pas dit 22 non
plus. Mais tu vois, 22 ans. Puis en plus, elle est petite pour 22 ans. Nick Cage fait 1m83.
Après, oui.
À peu près.
Mais elle fait jeune toujours maintenant, de toute façon.
Elle a l'air super jeune. Puis elle a vraiment une baby face. Puis en plus, il la coiffe pour qu'elle ait l'air un peu encore plus jeune. Mais j'étais vraiment surpris par ça. J'étais genre. Parce que la première fois que je la vois, j'étais genre, merde. personnellement, j'ai un problème avec la plupart des, des enfants acteurs, parce que je trouve qu'ils jouent pas forcément super bien. À part le gars dans Umbrella Academy, vous devriez aller regarder cette série, parce qu'il joue super bien. Mais,
ouais, je suis en train, là, justement, de me remettre dessus.
Et je l'ai regardé, j'étais genre, merde, pour une fille qui a genre 16, 17 ans, 18 ans, peut-être, je sais pas, elle joue quand même super bien. Puis je suis allé voir, elle avait 22 ans, puis j'étais genre, ok. Et pour la petite histoire.
Mais non, je suis d'accord que. En fait, c'est plus un réflexe où je me suis dit, elle est forcément plus vieille que son âge, parce que c'est toujours comme ça. Ouais. Mais par contre, c'est très crédible, ouais.
Et pour la petite histoire, comment elle a convaincu Ridley Scott, c'est juste qu'elle est. Elle lui a jamais dit qu'elle avait 22 ans. Elle est juste rentrée dedans en mode âge, j'ai 14 ans, puis le gars a fait, ah ouais, non, elle est cool. Puis après, il lui a dit, en fait, j'ai 22 ans. Donc je trouve ça drôle. Mais voilà, c'était ma petite parenthèse acteur passé. Mais comme tu disais, oui, ça se passe plutôt bien. Ils se rencontrent dans un diner, ils parlent. Ils se rendent compte finalement qu'elle a l'air. Qu'elle lui ressemble un peu plus qu'il pensait, que genre. Voilà, enfin, finalement, en gros, il est en train de. Mais il est en train de c'est un papa en fait, qui est en train de tomber amoureux avec sa fille, quoi. C'est de manière, en fait, de manière correcte, quoi.
En fait, ils se disent pas grand chose, mais en fait, je pense, enfin, clairement, elle aurait pu ressembler à n'importe quoi. Je parle pas physiquement, je parle au niveau de la personnalité et tout, que lui, ça aurait matché quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, ils ont pas forcément de moments de complicité incroyable, mais c'est juste que tu sens que lui, en fait, il se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui veut dans sa vie, donc c'est plutôt ça.
Non, mais y a
parce qu'en fait, il y a un peu ce truc un peu bizarre où ils se disent pas grand chose, mais tout de suite, elle, enfin, en tout cas, elle a pas de ressenti par rapport à son père.
Ouais.
Le fait de qu'il se soit pas connu, enfin, parce qu'elle a quand même 14 ans, donc c'est vrai que pendant 14 ans, il s'en foutait d'elle. Le fait que les choses qu'aurait pu lui dire sa mère, donc elle est tout de suite dans le fait de le voir d'un bon jour, donc c'est pour ça que elle veut tout de suite le revoir après, elle est rapidement très proche avec lui.
Ouais, il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que il y a très clairement une plutôt bonne chemistry entre Nicolas Cage et Alison Lohman. Ils jouent super bien ensemble, ce qui fait que du coup ça rend ce côté très finalement ils sont attirés en tant que père et fille très très rapidement, en fait. Cette dynamique parent enfant elle marche, en fait,
il se met tout de suite dans la peau d'un père.
Ouais, voilà, Roy a vraiment envie, mais t'as raison, c'est aussi parce que je pense que Roy a vraiment envie d'avoir une fille, et Angela a vraiment envie d'avoir un père, donc du coup ça clique, en fait.
Ouais, ça, il n'y a pas de moment où elle lui reproche des choses, où il s'excuse. Non, on saute cette étape-là, en fait. Directement, ils essayent de se trouver un peu des occupations quand ils sont ensemble, puis voilà, quoi.
C'est plutôt cool. Et finalement, comme Roy est soudainement très content, parce que du coup, ça le rend beaucoup plus content. Ce qui, déjà, de un, commence aussi à le diminuer en tant que. Dans ses tics et tout ça, même si le docteur lui a donné des pilules, il se sent quand même beaucoup mieux.
Ça aide, quoi.
Du coup, il décide, ok, parce que un peu plus tôt, on n'en a pas parlé, mais Frank était venu le voir en lui disant, écoute, j'ai envie de faire un long con, donc une grosse arnaque sur un gars qui s'appelle Chuck Fréchette, qui est censé être un pigeon riche, qui sont prêts à plumer, quoi. Et finalement, et à la base, Roy lui avait dit, non, moi je fais plus ça, je fais plus des trucs qui prennent du temps, moi je fais que des arnaques simples et qui vont rapporter maintenant. Et là, le gars lui dit, bon, écoute, je te dois un peu ça, donc. Parce que dans sa tête, c'est à cause de Frank qu'il a rencontré Angela.
Même si, pense à la chanson.
Même, ouais, c'est vrai. Les mini-cubs, les gars. Même si au final, il lui...
Je pense pas à celle-là.
Si, mon gars. Même si lui explique c'est pas Mélissa encore. C'est Mélissa Minicam. Ouais. Non, t'as raison, c'est vrai.
Mais oui. Non, Angela, c'est Sayan Tupacru.
Oui, c'est ça, je les confonds toujours. Les Minicam, Sayan Tupacru. Wow, je les confonds.
Ok.
Même si, finalement, Roy a pas expliqué à Frank encore qu'il a une fille, mais tu sais, lui, il est genre, ok, je te dois bien ça, on va faire ton arnaque que tu veux faire.
Donc ouais, donc l'idée de l'arnaque, c'est en fait d'avoir ce Chuck en fait et de faire en sorte que Nicolas Cage se fasse passer pour un employé de banque et qu'il lui propose en fait d'échanger des livres, non, ou enfin en gros, en tout cas une monnaie étrangère et vu qu'il pouvait pas, il peut pas les transformer ça en dollars de lui-même, donc de passer par Chuck, d'échanger donc du coup des grosses sommes d'argent en livres, on va dire, contre des grosses sommes d'argent en dollars.
Exactement.
Et que dans l'i...
Je disais exact.
Oui, d'accord. Et que dans la transaction, le mec, il se fasse du fric parce qu'il récupère l'écart du taux de conversion. Donc, évidemment, c'est pas si simple que ça. Dans un premier temps, le mec va vraiment se faire de l'argent. Et puis dans un deuxième temps, l'idée, c'est de finir avec tout le fric du côté de Nicolas Cage et Sam Rockwell.
Exact.
Voilà, donc c'est ça. Et puis en parallèle, on a Angela qui décide de se pointer un peu à l'improviste directement à la maison de Roy un soir, donc en expliquant qu'elle s'est engueulée avec sa mère et que du coup elle veut savoir si elle peut dormir là pendant une semaine, je crois. En tout cas, jusqu'à ce que l'école d'été, traduction
ouais.
mot à mot, je sais pas comment.
Summer comment class. En ouais,
ça existe pas trop en France, en fait, d'ailleurs. Enfin, beaucoup moins. Ça existe un peu, mais beaucoup moins. Enfin, bon, le fait de bosser pendant l'été pour rattraper un peu, des fois, quand on a des lacunes, des choses comme ça. Enfin, bon.
Ouais.
En attendant la vraie rentrée, prendre un peu d'avance. Et voilà, donc, passer une semaine avec lui. Bon, il est très surpris, il a un peu peur parce que du coup, avec cette arnaque en parallèle, enfin bon, puis il aime pas forcément être bousculé dans ses habitudes,
ouais,
mais,
non, vraiment pas,
mais bon, il est très content de la revoir et qu'elle a envie de passer du temps avec lui, donc il lui dit oui, ou en tout cas il lui dit pas non parce qu'elle s'impose un peu de toute façon.
Puis en plus, elle tombe au moment où lui, il faut qu'il parte pour aller oui. Justement rencontrer Chuck, donc il est genre bon, bah écoute, reste là. Avec, je pense, une des lignes qui m'a le plus fait rire de tout le film, où justement, elle est genre « Ah, bah, je vais juste regarder la télé. » Et puis, genre « Ah, tu peux t'asseoir dans le canapé. » Et elle est genre « Attends, t'as pas de télé ?»« Non, mais tu peux t'asseoir dans le canapé. » Et Cage qui joue ça avec d'une manière... Il a l'air tellement genre confus, puis il est genre « Ah, je suis pressé. » Il le joue super bien.
Genre qu'il y a des gens qui vraiment leur occupation c'est de s'asseoir.
je connaissais quelqu'un qui était comme ça. Et je suis sûr que ce mec-là, tout ce qu'il faisait de ses soirées, c'était s'asseoir chez lui, puis il faisait rien. Mais bref. Et donc voilà, Cage s'en va pour rencontrer Chuck. Et bien sûr, la première rencontre avec Chuck se passe très bien, entre guillemets. La première rencontre entre guillemets, se passe très bien, puisqu'en fait, c'est juste un petit moment où Frank est en train de faire une transaction, entre guillemets, avec Roy, tandis que Chuck les voit de loin, et en gros, ils sont censés faire en sorte qu'en fait, ils les voient pas, quoi. C'est censé être une transaction secrète, mais Chuck les a plus ou moins captés. Et ensuite, quand Frank lui parle, il lui dit, bon, voilà ce qui se passe.
Ouais,
avec
c'est ça, en fait. Frank, il connaît déjà Chuck. Ouais. Et là, ils font une transaction un peu de manière cachée, mais pas très bien cachée.
Voilà.
Pour montrer que Roy, c'est un peu genre un gros poisson, qu'un mec a de l'argent, que ça peut être intéressant.
Pour Chuck, quoi.
Ça peut être intéressant pour Chuck de s'intéresser au deal, quoi.
Et effectivement. Quand Chuck Roy revient chez lui, il passe prendre de la glace parce que sa fille veut absolument un type de glace, et on voit aussi le romantique intérêt de Roy, qui est en fait une caissière au supermarché du coin, qui elle aussi semble avoir le genre de obsessive compulsive disorder ou quelque chose comme ça. C'est le trope qui m'énerve, que genre quelqu'un qui a des maladies mentales doit trouver quelqu'un qui a des maladies mentales, je trouve ça genre...
Je sais pas, en fait elle sait juste compter.
Ah non, mais elle, par exemple, elle a du mal à regarder les gens dans les yeux, elle est... Ouais,
c'est léger quoi. Genre oui, au début, première scène, c'est il la voit compter des billets et je sais pas, le mec il était tout excité quoi.
Ouais, non, c'est ça, je trouve ça énervant, mais bref.
C'est pas la partie passionnante du film. Hein.
Et en plus, pendant ce temps-là... Angela a foutu le bordel chez Roy, elle a checké de partout.
Bah oui, elle a pas de télé, il fallait bien qu'elle s'occupe.
Bah ouais, elle a fouillé de partout et elle a trouvé l'argent que Roy garde dans un chien et le gun.
Alors, explique quand même, précise, parce que c'est pas un chien vivant. Hein.
C'est un chien en céramique, la tête s'enlève et l'intérieur est creux. Et Roy garde et de l'argent et un revolver dedans. Et comme vous en doutez,
louche quoi.
Le fusil de Tchekhov, hein, si c'est montré ici, c'est que ça va être servi à un moment.
En fait, ça sert juste 3 secondes plus tard quoi.
Bah, pas si 3 secondes plus tard.
Longtemps
après.
Peu de temps après, elle lui explique quand même.
Ah, je parlais du gun. Je parlais du.
Ah oui, le gun. Non, mais je sais pas si c'est vraiment. Il est utilisé plein de fois ce chien et tout, ça me c'est moins grossier que dans un...
Non, mais c'est que
certains fusils Tchekhov peuvent être, quoi.
Non, mais c'est clairement pour les gens qui savent pas forcément ce que le fusil Tchekhov means...
Bon, on l'a déjà expliqué dans une émission, ils ont qu'à écouter toutes les autres émissions.
Simplement un plot scénaristique qui veut que si on te montre un fusil dans l'acte 1, il faut qu'il soit utilisé dans l'acte 3, c'est tout.
Ouais. Pour à la fois pas montrer des trucs juste pour les montrer et aussi interdire les Deus Ex Machina où d'un coup t'as un retournement de situation que le spectateur ne pouvait pas avoir vu venir. Donc voilà. Mais effectivement, donc là ça va lui permettre, alors elle avait déjà un peu des doutes entre guillemets, apparemment sa mère lui avait déjà dit que c'était un peu un voyou ou quelque chose comme ça, mais du coup voilà, ça rajoute dans son esprit, un petit truc un peu louche, quoi. Beaucoup d'argent et un flingue, bon, c'est pas un truc que tout le monde a. Enfin, en tout cas aux États-Unis, peut-être surtout l'argent. mais voilà, c'est surtout qui est caché comme ça.
Ouais, c'est ça.
Donc ils vont continuer un peu à se rapprocher. Donc ils vont au bowling ensemble. Ils font quelques activités ensemble, ils mangent de la pizza, etc. Donc c'est pendant justement le fameux bowling, parce que bon, apparemment elle est très fan de bowling, que Frank appelle Roy pour lui dire bon, tu sais, la transaction qu'on devait faire avec Chuck, c'était prévu pour demain, mais malheureusement il faut absolument qu'on fasse tout de suite.
C'est ça,
là, on n'a pas le choix, c'est parce qu'il y a son avion qui a été avancé, ou je crois que c'est un truc genre. Donc après, il est plus là, donc c'est obligé. Donc je suis désolé, t'es en plein milieu de ta partie de bowling, mais il va falloir venir et t'as même pas le temps d'aller déposer ta fille. Donc en fait, il se retrouve à la faire venir avec lui. Donc pendant qu'il va à la banque pour récupérer la grosse somme d'argent en livres qu'il avait dans son coffre. Et puis après, il va aussi du coup la faire participer à l'échange d'une manière un peu dérivée.
Alors, chose importante qu'il faut savoir, c'est que pour accéder au coffre, t'as besoin d'une signature. Et Roy décide d'ajouter Angela à la liste des gens qui peuvent accéder à son coffre avec une signature.
C'est ça. Donc il lui faut quand même. Alors il lui faut la signature, mais il lui faut aussi un mot de passe. Bon, il lui dit pour l'instant t'as pas le mot de passe. Le mot de passe c'est pour quand je vais mourir. Mais on sent quand même par contre que voilà, il lui fait confiance et qu'il a envie de. Il a vraiment envie de l'intégrer dans sa vie. C'est pas juste pour une semaine et après il l'oublie.
Exact.
Donc effectivement il récupère l'argent et là il se retrouve à l'aéroport pour faire l'échange. Donc,
et donc, bien sûr, il l'amène pas juste pour l'amener, il l'amène aussi pour lui demander faire de faire part d'être la distraction, en fait.
C'est ça, parce que l'idée, c'est que donc il lui monte la mallette avec l'argent, l'autre en face, Chuck, compte, il dit « Ok, bon, j'ai vérifié, il y a assez. » Donc il lui donne la mallette, en échange l'autre lui donne un sac de gym avec l'équivalent
en dollars,
et là justement t'as la fameuse Angela qui fait une scène où elle s'énerve face au barman en lui disant oh mais non mais j'ai 21 ans je peux boire, elle va jusqu'à casser un verre par terre. Donc c'est assez marrant maintenant avec ton anecdote, c'est qu'elle a vraiment 21 ans.
Ouais. Bah ouais.
Donc là il y a Chuck qui est un peu qui tourne le dos pour regarder la scène, parce que un peu comme tout le monde dans l'aéroport, une petite fille comme ça qui se met à gueuler au milieu de l'aéroport, à casser des trucs, forcément ça attire l'attention. Et là Roy en profite pour échanger la mallette qu'il vient de donner à Chuck avec une autre mallette qui est en tout point similaire, sauf que on imagine bien qu'elle est vide. Donc du coup comme ça il repart avec à la fois les livres et les dollars. Donc après avoir fait ça décide de partir au plus vite, et il demande quand même déjà à son pote, à Frank, de suivre Chuck jusqu'à l'avion pour être sûr qu'il n'y a pas un moment où il va ouvrir la mallette pour vérifier une deuxième fois. Donc on pense que tout s'est bien fini, ils ont l'air très contents de leur coup, donc la fille et le père, sauf que au moment où ils sont en train de partir en voiture, on voit Chuck qui leur saute dessus. On comprend qu'il s'est rendu compte de la supercherie.
Il est pas content.
Et
ouais.
Du coup, il les attaque et eux s'enfuient en voiture pendant que Chuck leur court un peu après. Donc, une espèce de, un peu de course-poursuite. Finalement, ils arrivent à s'échapper. Et puis, ils se retrouvent du coup avec Frank au point où c'était prévu. Sauf que, forcément, ça va un peu foutre leur plan en l'air parce que, maintenant, il y a Chuck qui est au courant de l'arnaque et qui est encore dans le coin. Ils savent pas comment il va réagir. Et puis surtout, ils se rendent compte de quelque chose, c'est que Angela, a priori, elle a un casier.
Ouais.
Ce qui fait que la police va pouvoir la retrouver facilement. Et s'ils la retrouvent elle, ils vont retrouver Roy, ils vont retrouver Frank. Enfin c'est un peu la merde, quoi.
C'est ça, et forcément, ça embête beaucoup Roy, en fait. Surtout plus que Frank est un peu embêté, mais Roy, ça l'embête vraiment beaucoup. Et donc, quand il décide de ramener Angela, yes, cette fois c'était le bon nom, Angela à sa maison, il lui dit on peut plus se voir, en fait. On arrête
là. Ouais,
Frank et moi, on va sortir de la ville. On sait pas combien de temps. T'as fait n'importe quoi. Blablabla. Là, Angela lui montre qu'en fait, elle lui a acheté quelque chose au gift shop de l'aéroport. Et là-dessus, il se calme un peu, mais Angela est fâchée, donc elle s'enfuit, elle lui dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir non plus, blablabla. Et à partir de là, tous les tocs de Roy reviennent, en fait. Et il se rend compte aussi qu'il n'a plus de pilule, comme il était censé avoir. Mmh. Et lui, il pense que c'est pas lié à Angela, il pense que c'est lié au manque de pilule. Et là, donc il essaye de retrouver les pilules, il appelle le psychiatre, mais bien sûr, le psychiatre n'est pas là. Donc là, il essaie de récupérer le paquet d'une des pilules pour aller dans une pharmacie pour demander à
l'équivalent. Ouais.
L'équivalent. Il s'énerve contre un gars parce qu'il essaye de passer devant la queue de tout le monde et il y a un gars qui lui dit y a une queue. Et là, le gars s'énerve en mode est-ce que vous avez déjà eu la face draguée contre du goudron par terre dans un moment d'explosivité incroyable?
Ouais, une scène un peu que vous pouvez retrouver sur YouTube, quoi.
Ouais, voilà.
Qui fait partie un peu des compilations de Nicolas Cage qui fait le fou dans les films.
Qui est clairement le soundbite que je vais utiliser pour le montage. Je sais même pas si c'est moi qui vais monter cet épisode, mais c'est pas grave. Et en gros, après quelques discussions avec le pharmacien du coin, il se rend compte, le gars lui dit non, c'est un supplément pour les femmes ménopausées, quoi.
Donc ouais, c'est juste un placebo. Le psychiatre s'en servait comme placebo C'est pas vraiment un médicament qui va vous aider pour vos problèmes. Quoi.
C'est ça. Et quand il confronte le docteur, bah, le gars lui dit « Bah ouais, non, c'est un placebo. » Et il dit « Rends-toi compte que la raison pour laquelle t'es correct maintenant, c'était juste parce que bah, t'étais pas stressé, c'est tout dans ta tête en fait. La raison pour laquelle t'étais correct, bah, c'était pas mal parce que Angela était là et machin. » Donc là, lui, il se rend compte « Bah ouais, non, finalement, il a besoin d'Angela. Il a besoin qu'elle soit là dans sa vie. » Mais par contre, ça veut dire qu'il faut qu'il arrête en fait. Faut qu'il sorte du travail, faut qu'il arrête d'être une mauvaise personne entre guillemets. Faut qu'il devienne une personne bah, respectable finalement. Et bah, ce soir-là, bah, il en parle à Frank. Et Frank est un peu déçu, mais comme cadeau de départ, il lui dit bah, garde tout l'argent. Ils ont eu 80 000 dollars, ils étaient censés le séparer en deux. Le gars, il lui dit, bah, tu sais, garde l'argent, c'est un cadeau de départ. Et puis voilà. Et il finit par retrouver Angela. Ils commencent à se reparler un peu et ils vont dans un diner. Oui, je crois qu'ils vont dans un diner pour manger.
Oui, ils vont manger à l'extérieur.
Et là, stop, full stop, on vous prévient. Là, on va rentrer dans le spoiler du film. Donc on vous conseille, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous ici, regardez le film, ou alors jumpez jusqu'à la, une fois qu'on va faire le résumé, la conclusion,
notre avis, et puis voilà.
Mais voilà, à partir de là, on rentre dans spoiler zone. C'est parti, Julien, envoie-nous dans un spoiler.
Ouais, bon, après le spoiler, c'est encore après, mais là, c'est un peu le début de la fin, on va dire, du film. Ouais. C'est le moment où, effectivement, ça commence un peu à avoir une spirale de violence et de révélation. Donc, quand ils rentrent de leur sortie resto, en fait, ils tombent sur Chuck, qui les attend à l'intérieur, flingue en main, avec à côté de lui, Frank, qui a l'air très mal en point. Donc, ouais. On imagine très bien que Chuck, a retrouvé Frank, l'a tabassé pour avoir l'adresse. Il explique qu'il les a retrouvés grâce à Angela, entre guillemets, parce que, vu que, comme on s'en doutait un peu avant, quoi, le fait qu'elle ait un casier, il explique que dans la boutique de souvenirs, il y avait des caméras qui ont fait qu'il a pu facilement avoir les images, voir à quoi elle ressemblait, et puis après la retrouver via son casier. Donc il est passé par là, il a Frank sous sa menace, et donc il leur pointe le gun et il veut évidemment récupérer son argent, mais pas que ça en fait. En gros il demande à Roy de continuer à bosser, et qu'il bossera maintenant, à partir de maintenant, tout l'argent qu'il va récupérer sera pour lui, quoi.
Exact. Et là, il lui dit rends-moi mon argent. Et bien sûr, Roy lui dit j'ai pas mon argent sur moi. Et le gars lui dit donne-moi ce que t'as maintenant. Et là, il dit je dois avoir 4000 dollars quelque part. Donc, il commence à aller en direction du chien en céramique. Mais bien sûr, Chuck lui dit non, tu fais pas ça. Laisse Angela aller le chercher. Donc, Angela va chercher non pas l'argent, mais le gun. Et elle revient avec.
Et dans la pièce, elle menace Chuck. Ouais.
Elle pointe Chuck là-dessus. Petit moment de
Mexican standoff.
Ouais, un petit Mexican standoff, puis petit rumble entre Angela et Chuck et Roy machin, qui finit avec Chuck qui se fait en fait tirer dans les guts.
Si, aussi, c'est ça, oui.
Ouais. Et là-dessus, tout le monde commence un peu à flicard, tout le monde est un peu dérangé. Donc là, ce que Roy décide de faire, c'est qu'il demande à Frank de ramener Angela chez elle, pendant que lui va emmener Chuck à l'hôpital.
C'est ça.
Enfin, c'est ce qu'il dit. Et il est censé emmener Chuck à l'hôpital. Donc Angela s'en va, et quand Roy retourne dans la
pièce où il y a Chuck.
Voilà. Il décide d'aller chercher des sacs plastiques pour se débarrasser du corps en fait de Chuck, mais malheureusement il se rend compte que Chuck est bah, il est plus là et il se fait assommer.
Assommer, ouais.
Par Chuck.
Mmh, c'est ça. Donc après, bah, la scène d'après, on a Roy qui se réveille dans un hôpital. Donc il est attaché à un lit d'hôpital, il est menotté. Et puis, il a en face de lui, la police qui lui explique que bah, Chuck est mort, donc a été est mort du tir de flingue qu'il a reçu, que Frank et Angela ont disparu et que bah voilà, eux ils veulent faire la vérité sur ce qui s'est passé. Il leur demande de lui expliquer tout ce que, enfin, d'avouer tout ce qu'il a fait, etc. Lui, bah, il demande de pouvoir parler à son médecin, donc chose que la police accepte en disant voilà, vous avez, ok, vous avez 5 minutes, vous pouvez lui parler. Roy du coup en profite pour demander que son médecin l'aide en donnant le mot de passe de son compte à la banque, à Angela, pour qu'elle puisse récupérer l'argent et s'échapper quoi avec l'argent. Donc en gros, que cet argent là ne lui soit pas récupéré par la police, mais que Angela puisse s'en servir. Donc bah il fait apprendre au médecin par cœur le mot de passe, et puis après le médecin part, et puis au moment où là normalement il y a la police qui doit revenir pour l'interroger, qu'il est prêt un peu à avouer tout ce qu'il a fait, bah il se rend compte qu'il y a plus personne dans l'hôpital.
Ouais.
Puis après il sort et il se rend compte que c'était pas un hôpital.
C'est ça, qu'il était dans un que c'était dans une espèce de... sur un toit, ouais, de parking. Là.
Voilà, qui avait été déguisé pour lui faire croire à un hôpital. Et là, bah forcément, je pense que dans sa tête, il fait tout de suite 1 plus 1 égale 2. Là.
Ouais, il sait très bien ce qui s'est passé.
Vu qu'il est habitué à être de l'autre côté d'une arnaque, bah, il se rend compte très rapidement que en fait, bah, cette fois-ci, c'est lui la cible de l'arnaque. Et puis, bah, il va vite avoir une explication après, derrière. Donc, par le biais d'une lettre que Frank lui a laissée.
Qui lui explique tout simplement qu'en gros, ben, voilà, tu t'es fait arnaquer, mon gars, je t'ai volé tout ton argent, puis adieu. Ah, et au fait, Angela, c'est pas ta fille.
Voilà. Donc, tout le monde était de mèche depuis le début, donc le docteur, Chuck. Angela et puis Frank évidemment. Donc voilà, donc bon, il y a là, on a Nicolas Cage qui fait un peu le tour de partout pour vérifier que ce qu'il imagine très bien est vrai. Donc il va à la banque, et effectivement il y a plus d'argent, il reste juste $2-3 que lui a laissé Frank pour être gentil avec lui.
Ouais.
Il va chez le médecin, il se rend compte que bah il y a plus du tout de, enfin le il y a plus personne dans le bâtiment. Il finit par aller chez donc son ex-femme, qui lui explique que il a pas de fille, parce qu'en fait la grossesse n'était pas arrivée à terme, elle avait, ouais, perdu l'enfant, et que du coup voilà, elle a jamais eu d'enfant, cette personne n'existe pas.
Et on a le droit, bah en fait, le film se termine sur Roy un an plus tard, qui est en fait maintenant un vendeur dans un magasin de tapis.
De tapis.
Et à un moment, il y a deux gars qui rentrent dans le magasin. Et en gros, le magasin, comment ça marche, c'est que lui, il est en charge de tout ce qui est genre rejeté, en fait. Ou des choses qui ont été découpées, puis du coup, bah, ils n'ont plus assez pour faire un vrai tapis. Donc en fait, ils vendent ça à des gens qui n'ont pas d'argent. Et clairement, il y a un dude qui rentre. Le gars a clairement pas d'argent, ça se voit, quoi. C'est un jeune, il a l'air mal habillé. Donc bah, du coup, il demande à Roy de s'en occuper. Qui est d'ailleurs joué par un des gars qui joue dans Cabin in the Woods. Que j'ai vraiment trouvé cool.
Et j'avais pas tilté, mais je vois bien.
Et en fait, ce gars a une petite amie, et bien sûr, cette petite amie, bah, c'est Angela. Et bah, du coup, il se revoit, il se reparle. Puis un peu comme on disait au début, où finalement, Angela, entre guillemets, avait pas de... Comment dire, de... de mauvaises intentions envers son père, bah, là aussi, c'est un peu le cas. Ils ont tous les deux une approche très sympathique envers l'autre. Finalement, Roy est un peu, entre guillemets, content d'être maintenant une personne retirée.
Ouais, donc, il a un peu fait le deuil de ça, quoi.
Donc, il lui en veut pas vraiment. Et en plus, Angela, elle s'est faite aussi arnaquer par Frank qui lui a volé tout son argent. Donc, il est genre... Tu sais, puis en plus, Roy considère que, ben, au final, il lui a donné cet argent. C'est un peu ce qu'il disait au début, que finalement, lui, il considère qu'il vole pas aux gens, que les gens lui donnent l'argent. Et là, il était genre, ben, en fait, non, j'avais vraiment envie de te donner cet argent à toi.
Ouais, et en même temps, la phrase d'après, il dit, bon, effectivement, en étant de ce côté, je le vois plus étant pareil, quoi.
Ouais.
Mais en tout cas, en fait, on apprend qu'elle s'est aussi fait arnaquer par Frank, donc elle a rien touché, en gros.
Ouais.
Donc, bon, je pense qu'il y a ça qui participe au truc. Mais bon, voilà, il a fait la paix avec ça. Il se rend compte qu'au final, il a moins d'argent, mais bon, il est au final pas plus mal.
Ouais.
En puis plus, il a gardé sa baraque, donc ça va.
Ouais, clairement, il a encore sa baraque super de riche, là. Et en plus, il apprend aussi que c'est la seule véritable arnaque qu'Angela a jamais faite. Elle n'arnaque plus personne. Donc finalement...
Ouais, il la voit encore un peu. Il peut pas s'empêcher de la voir encore comme sa fille, donc du coup, ouais. Il est limite content qu'elle soit pressée dans le droit chemin après.
Et en plus, quand elle part du magasin, bah, elle lui dit ah, je te vois bientôt, Dad. Puis après, elle lui demande ah, est-ce que tu veux savoir c'est quoi mon vrai nom? Puis là, elle lui dit non, je sais c'est quoi ton vrai nom, genre. En gros, pour dire ton vrai nom, c'est Angela. Et comme tu disais, voilà, on a le droit au closing shot de Roy qui retourne dans sa baraque super riche où une personne l'attend. Et donc, c'est cette femme de qui était caissière, qui est enceinte. Et qui, voilà, donc maintenant, il a finalement... il est sorti de tout ça. Et c'est une bonne fin. C'est une fin qui finit bien.
C'est une fin très américaine, très puritaine, mais...
En fait, je sais pas si je l'aime ou pas. C'est-à-dire que je l'apprécie parce que je suis content pour Roy. Parce qu'en fait, j'aime bien ce personnage. Mais en même temps, je suis genre... Avec le ton qu'a un peu tout le reste du film, qui a l'air quand même très cynique, je suis un peu étonné que ça se finisse comme ça. Mais en tout cas, voilà. C'est la fin, et c'était donc la fin des Associés. Alors moi, j'ai déjà dit mon... ce que j'en ai pensé au début, mais toi, Julien, t'avais l'air un peu plus...
Non, bah après... en fait, le film, je trouve, se regarde très bien, il est très agréable, le rythme est bon, les acteurs sont bons.
Super bien.
Après, on va dire que... En fait, quand c'est un film d'arnaque, tu sais que... Il va y avoir un retournement de situation à la fin.
Ouais.
Enfin, donc, du coup, je savais depuis le milieu du film qu'il allait se faire arnaquer. Après, je savais pas exactement comment. Je me suis dit, est-ce que c'est juste la fille? Moi, je pensais que ça allait peut-être être juste la fille, tu vois. Parce que,
tout le monde aussi, qui est concerné. Je pensais que ça allait être la fille et son ex-femme. Qu'allait, genre, l'arnaquer.
Après, en soi, le film, il est quand même bien fait là même là-dedans parce que ça reste sur la vraiment toute fin, c'est pas trop abusé. Et puis surtout, quoi, tu revois qu'il y a des trucs qui sont plus dans un film où tu te dis ah ouais, effectivement, c'était peut-être un peu louche.
Ouais, ouais.
Donc,
non, mais...
Surtout le fait que la fille, ce soit elle qui soit très. Enfin, elle ne lui reproche rien, que c'est elle qui vraiment pousse le truc. Qu'elle l'accepte vraiment très vite, qui peut être un peu louche. En même temps, il y a aussi le truc, quand tu sais ça, tu te dis qu'il y a plein de fois où en fait c'est elle qui le repousse aussi, où elle pousse des crises de colère, elle aurait pu perdre toute l'arnaque à plein de moments, quoi. Je sais pas si. Je pense que quelqu'un qui fait une arnaque comme ça, il prend moins de risques.
Oui.
S'il doit absolument rester proche de quelqu'un, il va moins souvent aller au clash avec lui, il va pas prendre des risques comme ça. Donc c'est là où tu te dis bon, c'est des fois un peu gros, mais après ça va, c'est pas aussi gênant que dans d'autres trucs. Mais tu vois, c'est un peu comme les films de magie, tu sais qu'à la fin, tout le film était un tour de magie.
Non, mais
il y a toujours un truc comme ça. Ça fait partie du un peu de la liste, de la bullet list de ce genre de film. Donc bon, écoute, tu le sais, et puis c'est comme ça.
Ce qui est intéressant, justement, un peu comme le gun de Chekhov, parce qu'en général, les trucs de retournement de situation, ils sont amenés de nulle part. Tu sais, tu vas avoir, oh, finalement, oui, il y avait ce mec-là qui faisait tel truc, puis...
Mais là, c'est pas amené.
C'est, tu sais, je veux dire, tu comprends dès le départ, quand tu réfléchis un peu au film, tu te rends compte que, ah ok, la raison pour laquelle il n'était pas capable de contacter son docteur au début, c'est probablement parce que Frank l'avait payé, comme ça il pouvait l'envoyer vers le docteur,
en même temps,
puis blablabla, tu sais, genre...
Tu peux te dire ça, mais en même temps, on va dire que quand tu regardes le film pour la première fois, il n'y a aucun moment où tu peux te poser ces questions-là.
Non, mais parce qu'il y a des fois où, quand, par exemple, tu prends des films comme Ocean's Eleven ou whatever, quand il y a le retournement de situation, t'es juste genre, ouais, mais attends, mais il n'y a absolument rien qui me montre que c'était
sens, ouais,
ça le truc, quoi.
Alors non, mais là, c'est pareil, il n'y a rien qui te le montre.
Non, mais
par contre, c'est possible.
Une fois que tu le sais, il y a des trucs qui te disent, ah oui, ok, d'accord.
Ça ne te le montre pas, c'est juste que c'est possible. Alors qu'il y a des fois certains films comme ça où quand tu revois le truc, bah, tu fais bah non, c'est clairement pas possible.
C'est ça, c'est juste.
Là, il n'y a pas ce problème là, mais c'est parce qu'en fait, je pense que c'est aussi parce qu'il reste dans un niveau assez terre à terre.
Oui.
Il n'est pas dans des trucs extrêmement grandiloquents qui fait que les mecs ils vont trop loin et que du coup ils font forcément l'erreur de tomber sur un truc impossible. Là, ça reste sur un truc assez terre à terre, donc du coup. Ils rentrent pas dans cette problématique là où ils essaient de faire les tours d'arnaque les plus grandioses possibles, et du coup ça passe
non,
beaucoup
vrai,
mieux.
Ouais. Et il y a aussi un truc que je sais pas trop, c'est j'essaie de le remettre en contexte, mais 2003 parce que tu sais, je suis d'accord, maintenant c'est ce genre de truc, c'est un peu éculé.
Ouais.
Éculé. Mais tu sais, genre en 2003, est-ce que c'était vraiment la norme? Est-ce que ça passait un peu mieux? Je sais même pas quand Ocean's Eleven est sorti.
C'est pas forcément une norme, parce que ça, c'est pas si courant que ça. Mais c'est juste que dans ce genre de film, c'est pratiquement obligatoire. Ça fait partie du cahier des charges.
Oui.
Mais après, oui, peut-être que c'était moins choquant à l'époque. Mais après, c'est pas horrible. C'est juste que du coup, t'as toute une partie où tu te pousses pas trop. Enfin, tu sais ce qui va se passer. Bon. Puis, mais c'est. Vu que le film joue pas trop l'entièreté de son intérêt là-dessus, ça va.
Non, il y a ça, puis il faut aussi reconnaître que moi, ça a été un plaisir total de regarder ce film, et une des raisons pour laquelle ce film a été tant un plaisir à regarder, c'est la relation entre Cage et les autres personnages, en fait. Parce que Cage, Sam Rockwell, est juste genre incroyable début à la fin. Cage, Alison Lohman, j'ai adoré. Puis juste Cage tout seul, en fait. Ce film est porté par Cage pour une fois. Pour une fois, non, il porte quand même pas mal ses films, mais tu sais, genre, un film de Ridley Scott, et Ridley est une personne qui est un peu plus. Pas contrôlant, mais tu sais, genre, c'est clair que je pense pas qu'il lui a laissé faire. Il l'a un peu tenu, même si clairement il lui a laissé faire pas mal de choses aussi, parce que il se fait plaisir dans ce film Cage. Mais en même temps. Il a l'air d'être bien dirigé, en fait, c'est ça que je veux dire. Il a l'air d'être bien.
Il en fait pas trop non plus. Il en fait pas trop non plus,
non,
en fait.
Non, mais en fait, il en fait trop quand il a besoin d'en faire trop. Tu sais, genre quand il est énervé ou quand il a des tics. Mais le
ouais,
reste
mais
du
ça
temps,
va,
il
c'est
est...
pas non plus. C'est pas une parodie. Hein.
Non, c'est bien fait, c'est ça que je veux dire. Mais je pense qu'il est bien
les
dirigé.
Les tics sont assez légers. C'est du coup, il y a un bon travail de trouver le juste milieu qui est fait de la part de Cage, donc à ce niveau-là c'est vraiment réussi, je trouve. Mais ouais, tout clairement, c'est tout le casting qui fait un peu le sel du film, les différentes interactions entre les personnages sont à chaque fois font permettre d'avoir des échanges assez savoureux, donc la chimie entre les je trouve pas le nom français, mais entre les différents acteurs, elle est évidente, donc généralement ça aide déjà pas mal à faire un bon film.
Et en plus je trouve que c'est un film qui a un humour que j'adore, en fait, qui est très subtil, mais c'est un film qui est drôle. et qui se moque pas des gens. Tu vois, ça aurait pu être l'écueil quand tu tombes, enfin, quand t'as une personne qui, a genre, qui est OCD, puis qui a un peu un syndrome de Tourette qui lui fait avoir des tics. Genre, ça aurait pu être genre moqueur ou tout ça. Et non, c'est juste un film drôle.
Non, c'est pas du tout là-dessus.
C'est un film drôle et doux. Et j'ai vraiment apprécié ce film-là.
Voilà, bon écoute, oui, voilà. Moi j'ai bien aimé aussi. Après, je le recommanderais peu à tout le monde. Hein. Après, ça reste un film. Je pense pas qu'il visait non plus à être un chef-d'œuvre, mais voilà, ça reste un film qui est au niveau d'un bon moment, quoi. Après, je dirais pas qu'il. Pour moi, il va pas forcément beaucoup plus haut, mais après, il a pas besoin d'aller plus haut, donc. Voilà.
Alors par contre, pour Cage en tant que tel, là,
on en a déjà pas mal parlé, ouais.
Ouais, mais si on devait donner une note et tout ça, parce que bien sûr c'est ce qu'on fait quand même, personnellement là, moi je considère que cette prestation là est presque au niveau de Leaving Las Vegas. C'est une prestation là qui a du potentiel.
On va dire que c'est moins tape à l'œil, c'est moins impressionnant directement. Ça, ouais. On lui demande d'aller moins dans des extrêmes, mais par contre c'est un bon exemple de maturité, on va dire, dans la prestation, et puis de justesse, de pas être allé trop loin justement. Ça c'est un vrai bon point.
Puis le nombre de fois où j'ai littéralement, je regardais le film, et le nombre de fois où j'étais juste genre scotché par son visage quand il essaye de ce moment où il est à l'ouf là, où il doit partir de son appartement parce que il faut qu'il rencontre Chuck, mais il y a sa fille qui est là et il est genre en train d'essayer de mettre ses chaussures, mais tu le vois là que dans sa tête c'est en train de tourner et que genre il a 40 000 trucs qui dit il faut que je fasse ça, et j'ai adoré cette prestation est vraiment cool. Puis pour moi, ouais, elle est là-haut avec Leaving Las Vegas. Je sais pas c'est la même, mais tu sais, elle est...
Non, moi je la mettrais pas aussi haut parce que je trouve que quoi qu'il arrive, il y a moins de choses qui lui sont demandées quand même. Tu vois, par exemple, on a mis 8,75 à l'adaptation, ça me semble...
Je sais pas s'il y a moins de choses à lui demander. Attends, il lui demande quand même... Parce qu'il faut qu'il joue des tics et tout ça, et surtout on en a parlé un peu, mais on n'en a pas parlé dans la c'est parce que c'est graduellement aussi diminué. Plus il passe de temps avec Angela, moins il en a, et cette graduation là, elle est incroyable en fait, quand il commence et qu'il est complètement à fond, puis il descend un peu, puis jusqu'au moment où il en a pratiquement plus, parce qu'il est genre...
Ouais, je sais pas, parce qu'en fait ils sont quand même, enfin, c'est plus des moments où il va y avoir des crises, où ils sont mis en avant. Et après, le reste est un peu toujours au même niveau. Donc, je trouve ça moins impressionnant que Leaving Las Vegas quand même.
Non, je dis pas qu'il irait jusqu'à Leaving Las Vegas, mais pour moi, c'est genre, c'est là-haut, quoi. C'est un 9,25 pour moi. C'est plus que adaptation. C'est une de ses meilleures prestations, là. Très
pour l'instant, il y a que Leaving Las Vegas qui a eu plus de 9, ouais. Si je dis pas de bêtises.
Leaving Las Vegas, on lui a mis 9,75 parce que pour nous c'est genre le top. Pour moi c'est dans le 9 là. On rentre dans ses meilleures prestations.
Bon écoute, si tu veux on peut mettre 9.
Allez.
Je t'accepte le 9.
Parfait. Et pour sa folie, mine de rien, il y en a pas beaucoup. Mais quand il y
non, va... en fait, il y a surtout le seul, enfin, le principalement le moment où il y en a, c'est quand il justement
fait des crises,
qui cherche ses pilules pour qu'il est à la pharmacie.
Ouais.
Où là, t'as un petit moment où tu dis, mais je retrouve mon Nicolas Cage là.
Mais il a 2-3 crises dans le film où ouais, il est.
Oui, mais
il est
bon. C'est plus. En fait, je trouve que c'est véhiculé plus au niveau de la réalisation et des effets visuels qu'au niveau de son jeu à lui.
Mm. Ouais, je comprends.
Lui, il est un peu plus justement, il s'énerve pas forcément vers les gens, enfin il est plus passif, il y a les trucs qui lui tombent dessus et il est un peu sonné, et du coup je trouve que ça passe plus par d'autres choses, mais il y a quand même des moments effectivement au-dessus de la moyenne, donc
parce que tu vois, par exemple, on a mis 7 à adaptation, puis pour moi c'est au-dessus d'adaptation, sa folie.
Ah, je suis pas forcément d'accord. L'adaptation, il y a un peu. Je trouve que c'est un peu les mêmes choses, moi. Au niveau, il y a un peu les mêmes scènes de folie ou qui sont très visuelles, qui passent beaucoup par les effets. Je trouve que c'est un peu mieux géré d'ailleurs dans Magic Man. Enfin, je préfère ce qui a été utilisé au niveau des effets. Je trouve que c'est un peu plus subtil.
Ouais.
C'est un peu moins grossier, mais après, au niveau de sa performance à lui, je dirais que c'est à peu près dans les mêmes eaux, quoi.
Ah, dans ce cas, ouais, bah, je suis OK avec un 7, alors, sur
Donc film. Là, on est sur quelque chose des notes, en fait, qui sont très proches d'adaptation.
Ouais. Ouais, bah
final.
Ouais. Ouais. Mais je suis pas malheureux de ça.
Un film qui est très différent, mais qui a des caractéristiques communes, quoi.
Ouais, bah ouais.
Bah écoute, ça me va.
Ouais, bah je pense qu'on a fait le tour, hein.
Ouais, c'est ça, on va conclure. Donc, pour nous suivre, donc vous avez différentes possibilités. Alors, pour nous suivre, pour écouter le podcast et ne louper aucun épisode déjà, donc vous pouvez vous abonner à la fois sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, et puis dans toutes les bonnes crèmeries, dans toutes les bonnes applications de podcast. Ou en nous cherchant donc Citizen Cage, ou avec le flux RSS qui est sur nos réseaux sociaux. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, donc on est actif à la fois sur Twitter, c'est @CitizenCagePod, on est aussi sur Facebook et Instagram, Citizen Cage Podcast. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais.
Le prochain film, ça va être un film très attendu, de nous deux pour des raisons différentes, mais très attendu. Donc il s'agira du National Treasure, donc Benjamin Gate, comment il s'appelle,
et le trésor des Templiers.
Voilà, et le trésor des Templiers, donc le film de John Turteltaub, qui est un peu des moments marquants de Nicolas Cage dans sa carrière, hein, en tout cas au niveau du box-office et de films populaires.
Ouais, de son star power, hein, qui l'a quand même...
Donc un épisode alléchant qui devrait arriver. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Puis du coup, à dans 2 semaines. Ciao.
Merci à tous et à la prochaine.